Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez La Pause Déj, un podcast produit et animé par Boomerang.
Et comme tous les midis, on adore discuter de tout et de rien, on a décidé de vous partager ce tout et rien. Vous allez voir, ça va être passionnant, en mettant plein de micros et en vous permettant de participer à cette belle discussion. Et aujourd'hui, le sujet, ça n'est nul autre que les agents et les agences d'influenceurs. Depuis quand ça existe? Est-ce que c'est Magali Berda qui l'a inventé? On va avoir très vite la réponse. En tout cas, restez avec nous, je pense qu'on va apprendre pas mal de choses.
Et on a la chance d'être accompagné de plusieurs personnes aujourd'hui. J'ai commencé par présenter Marcello, qui est social créatif chez nous.
Hello!
On va aussi présenter une créatrice de contenu, mais qui chez nous est chef de projet. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et une autre créatrice de contenu qui est aussi chef de projet chez nous, mais on est entouré que de personnes talentueuses, qu'est-ce que vous voulez. Bonjour Ivana.
Bonjour.
Et nous avons évidemment oublié de nous présenter, comment est-ce possible? Je suis donc David.
Je suis Pierre.
Et on est tous les deux les cofondateurs de cette belle agence qui est Boomerang. Et bah, il nous reste à vous dire bon appétit.
Bon appétit.
Bon appétit.
Vous avez vu récemment là le sujet avec Magali Berda, alors je parle pas de la plein, enfin de du combat qu'elle mène contre Booba et que Booba mène contre elle surtout, mais plus de la déclaration qu'elle a faite à cette occasion de dire genre j'ai inventé slash allez amené l'influence en France en 2016. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que c'est Magali Berda qui a amené le marketing d'influence en France?
Bah non.
Et bah voilà, merci, fin du podcast. Je pense qu'on a tout dit.
Non, en vrai, je pense pas que c'est elle qui l'a inventé. Je pense que c'est elle qui l'a popularisé, dans le sens où elle a vraiment fait du code de masse. Je crois que dans le docu, ils disent que genre les personnalités de télé-réalité, elles font 40 sponsors par semaine ou un truc comme ça. Enfin, c'est hallucinant. Alors qu'un influenceur standard, qu'il soit gros ou petit, si on regarde, ils en font 3, 5 max dans la semaine. Donc je pense qu'elle a vraiment popularisé ce truc-là.
Pour remettre juste le contexte, Magali Berda, c'est une femme qui a créé l'agence Shona Event. Et donc Shona Event, c'est une agence qui représente des influenceurs de télé-réalité, parce qu'il y a plusieurs styles d'influenceurs, créateurs de contenu, influenceurs de télé-réalité.
Mais pas que, hein. J'ai vu dernièrement, je suis allée sur le compte de Shona Event pour aller voir qui y avait comme créateur dedans. Et il n'y a pas que des gens de télé-réalité.
Ah bon, comme
je l'ignorais également, mais il y a des chanteurs, je crois que...
Ouais. Okay.
Des
personnalités,
il y a des artistes,
un peu
ouais. Il y a
des chanteurs qui vont faire 40 sponsors par jour.
Genre Maître Gims, quoi.
Voilà.
Je crois qu'il est chez Shona Event.
Mais je crois qu'il a des
je parts. Je crois qu'il y a aussi Tout est PMP.
Oui.
Oui, bon, ça...
Il y a une raison à ça, parce que...
Ils appartiennent au même groupe.
Exactement.
Ouais. Ça appartient au groupe Banijay. Mais il y a tous les chroniqueurs du coup de PMP qui sont chez eux.
Mais en tout cas,
je crois que j'avais vu que, en gros, dès qu'on rentre dans un programme de télé-réalité qui appartient à tout le groupe, en fait, ils nous font signer un contrat de télé-réalité pour passer à l'écran et en même temps un contrat de chez Shona Event.
C'est abusé, ça.
En nous disant, genre, en fait, tu fais de la télé, par contre, tu n'as pas le droit d'aller chez quelqu'un d'autre pour faire carrière ailleurs.
Ok, donc ils sont vraiment affiliés les uns les autres.
Ah oui, oui, genre, c'est un peu une secte.
Et du coup, pour revenir juste au, est-ce que c'est elle qui a créé le marketing d'influence? Je pense qu'on est tous d'accord. Et
oui.
On sait que absolument pas. En revanche, je rejoins Marcello sur le fait qu'elle l'a popularisé. C'est la première à avoir fait du personal branding, à être mis en avant. On le voit aujourd'hui sur TPMP, etc. En disant, j'ai une agence de marketing d'influence, etc. Les autres patrons, patronnes d'agences de marketing d'influence et d'influenceurs ne sont pas autant représentés, ne se mettent pas autant en avant. Donc du coup, le grand public ne les connaît pas du tout.
Mais du coup, c'est quoi, en fait, le métier d'agent d'influenceur pour vous? Déjà, c'est un métier qui existe depuis pas longtemps. Donc je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas vraiment les contours de ce métier et qui se font plein d'images sur ce que c'est que ce métier. Pour vous, c'est quoi le métier, les trois gros points de ce que c'est que le métier d'agent d'influenceur, Ivana?
Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'occuper de l'influenceur au niveau de ses collaborations, c'est-à-dire que c'est pas à l'influenceur de dealer son prix, de négocier, c'est à l'agent, de l'accompagner aussi aux événements, au tournage, et oui, de faire attention aussi au contenu, enfin aux marques avec lesquelles il va collaborer, si c'est clean, si c'est pas du dropshipping, enfin contrairement à ce que Magali Berda a pu faire, qui était beaucoup de dropshipping, mais maintenant je pense qu'elle va se calmer, mais
pas sûr,
pas sûr, vraiment pas,
bof,
Mais pour moi, c'est à ça que sert un agent. C'est vraiment pour nous driver sur nos collaborations en premier.
Et après, je pense que ça dépend aussi des agences. Moi, du coup, je suis en agence et je sais que moi, c'est vraiment comme ça.
T'es chez qui, en agence, aujourd'hui?
Je suis chez Sœurette Production.
D'accord.
Qui est une grande agence connue. Hein.
Oui, bien sûr.
Et du coup, je pense que si le rôle d'un agent, c'est du coup, évidemment, de faire attention aux collaborations, de dealer, parce que du coup, c'est leur métier de dealer. Je pense qu'ils sont plus avisés que nous. Avisés, c'est bon.
C'est très bien. C'est très joli. En tout cas, moi, j'ai compris.
Wow. Moi pas, mais je trouve ça très joli.
OK. Non, du coup, je pense que c'est vraiment leur métier, leur cœur de métier, c'est d'aller chercher des marques pour les créateurs, de nous demander qu'est-ce qu'on veut faire comme collaboration et de voir si on peut démarcher aussi des marques, d'aller voir des grands groupes, etc. Et je sais que dans certaines agences, il y a aussi tout un suivi sur le contenu. Ils leur demandent, ils font des points tous les mois pour savoir si quel contenu a mieux marché que d'autres. Il y a vraiment un vrai accompagnement. C'est pas dans toutes les agences, c'est pas avec tous les agents, mais c'est aussi possible. Un accompagnement avec des studios dans l'agence, un vrai set tout autour de tout ça.
Du coup, c'est quel univers de métier ? Parce qu'il n'y a pas une formation qui te permet de faire à la fois... le contenu, à la fois le commercial, à la fois le juridique, on en parle, mais c'est aussi eux qui regardent ça. Pour vous, c'est quel univers ça... Il y a des études aujourd'hui pour faire agent ? Je crois même. Enfin, moi, en tout cas, je crois pas.
Je crois qu'il y a genre 2-3 écoles qui ont ouvert, mais des écoles hyper bancales.
Ouais.
Qui t'emmènent sur des sites un peu chelous juste pour t'inscrire et prendre ton argent.
Aussi bancales que les écoles d'influenceurs, quoi.
Voilà. Et il y en a une qui a été sponsor par Magali Berda, en plus.
Elle est partout, hein. C'est pour ça qu'elle a un talent en télémarketing d'influence.
Ça sera le titre du podcast, Magali Berda.
Où j'ai dû faire une étude dans mon ancienne école sur ça. Je me suis inscrit. Et bah, encore aujourd'hui, 2 ans après, je regrette. Parce qu'ils m'envoient des mails 4 fois par jour. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment... Je pense qu'en vrai, il y a ce côté pro de l'agent, mais il y a un côté un peu perso. Alors, je ne sais pas si c'est les influenceurs qui veulent le montrer comme ça, mais genre chez Follow ou les trucs comme ça. Il y a vraiment un côté hyper perso où ils sont
un peu aussi, voilà, s'entendent tous super bien,
ils s'entendent super bien, ils sont limite potes, ils sont invités au mariage de l'un et de l'autre. Ouais, donc je pense qu'il y a aussi cette partie là et ça on peut pas l'apprendre en école. Du coup je pense qu'ils pourraient jamais avoir vraiment d'école d'agent de...
Mais après moi je pense que ça a toujours un petit peu existé dans un autre registre, mais les artistes ils ont toujours eu des agents, donc je pense que c'est un métier qui existe depuis longtemps. Parce que c'est pas la même.
Ça s'apprend sur le tas aussi.
Ouais.
Avec l'expérience.
Non, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est
l'herbe sur le pied.
Ah bah ouais, c'est exactement ça. Non, mais j'allais dire, on a tous peut-être vu la série 10%. Et en fait, la série 10%, je trouve, elle montre bien ce qu'est le rôle d'agent. Et finalement, le rôle d'agent d'influenceur, il n'est pas si différent que ça. Que ça soit pour des cinéastes ou alors des acteurs, des actrices, etc. C'est globalement la même chose. Et à chaque fois, il faut le côté commercial. Effectivement, et le côté artistique, parce que l'agent, il lit, quand c'est dans le ciné, bah, il va lire les scénarios, il va conseiller sur la carrière de son acteur ou actrice.
Et si on veut répondre justement à Magali Berda sur un peu l'historique des agences et des agents d'influenceurs, est-ce que vous savez un peu quand est-ce que c'est vraiment arrivé en France? Et on va dire, à l'époque, en tout cas, moi, je pense que c'est arrivé quand les influenceurs, on les appelait encore les youtubeurs, parce qu'il y avait vraiment
Je pense que c'est encore avant.
Alors, vas-y.
Les blogueurs.
Mais est-ce qu'il y avait des agences de blogueurs ?
Ouais, il y avait pas vrai.
Mais en fait, il y avait des agents indépendants, mais ça s'est créé sur le tas. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, c'était le frère d'eux, la sœur d'eux,
exactement.
Etc., qui représentaient. Ouais. Mais le début de l'influence, c'est-à-dire qu'une marque qui paye un particulier qui fait du contenu et qui a une audience, c'est avec les blogs et l'apparition d'Internet, etc.
Alors, dans ce cas-là, moi, je parle peut-être plus à grande échelle.
Le gros boom.
Exactement, c'est venu avec YouTube et les youtubeurs et, je ne sais pas si vous connaissez, les multi-channel networks, appelés les MCN ou les networks. Vous connaissez les networks, ce que c'est enfin, ça vous parle ?
Oui.
Non.
Ah Claire, ça te parle. Tu saurais nous citer des networks qui existaient à l'époque et c'était quoi leur fonctionnement ?
J'ai peur de dire des bêtises.
Mais vas-y, il n'y a pas de bêtises ici, que des vérités.
Bah, Webedia, c'était un network,
c'est ce que j'allais dire.
Oui, entre autres.
Ouais, Webedia. Ouais.
Belberries.
Exactement.
Ouais, qui après a appartenu à Webedia et dont David est l'illustre personnage.
J'ai eu la chance de passer chez Belberries.
C'est vrai,
D'ailleurs, David, dans mes contacts, s'appelle encore David Belberries.
Eh oui, quel joli nom de famille.
Mais bon. Un network, c'est fait aussi pour développer plus le contenu du créateur aussi.
En fait, pour
la jauge entre les deux, mais...
Pour revenir sur l'histoire, c'est que... En gros, YouTube a amené de la monétisation pour ses utilisateurs. Ils n'ont pas voulu être en direct avec les utilisateurs, comme c'est le cas aujourd'hui de toutes les plateformes qui sont en direct avec leurs créateurs. C'était trop gros pour eux. Ils voulaient rester une plateforme et donc ils ont créé des intermédiaires qui vont gérer plusieurs chaînes YouTube, donc des multi-channel networks, des réseaux qui gèrent plusieurs chaînes.
Oui, c'est bon, je me souviens que quand j'étais chez Melbury, c'était eux qui m'envoyaient l'argent de YouTube.
Exactement.
Parce que c'était relié
exactement
à mon compte.
Et comme ça, ça limitait pour YouTube les intermédiaires et ça permettait d'avoir un filtre avec lequel on disait on veut être sûr que vous allez gérer les influenceurs. Et c'est comme ça que c'est né. Et d'ailleurs, historiquement, il n'y avait pas de contrat comme maintenant. Ça a évolué. Mais les contrats, c'était de dire on prend X% de tes revenus YouTube et on te reverse X%. Et je crois que les premiers contrats, ils étaient un peu abusifs.
50-50, non ?
Même plus pour ça.
Ah ouais,
je pense que
toujours plus.
Une des premières entreprises qui a été créée en France là-dessus, c'est Wizdeo, qui existe toujours, qui est agence d'influenceurs maintenant, je pense.
Ouais.
Mais je crois qu'ils faisaient des 70-30 pour Wizdeo. C'est-à-dire, Wizdeo disait, OK, on prend 70% de tes revenus. Mais c'était au début, personne ne savait que ça existait.
Bien sûr.
Et il y a eu qui encore Wizdeo ? Il y a eu Melberry, effectivement. Et après ?
Mais après, les sommes étaient un peu moins élevées qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait moins de pubs. Enfin, c'était différent aussi, la monétisation des vidéos.
Et après, ce qu'a fleuri, c'est les collectifs. Je ne sais pas si vous connaissez Golden Network ou Studio Bagel.
Si.
C'est les premiers collectifs de...
Créés par des médias.
Exactement.
Pour le coup.
Golden Network, c'était M6. D'ailleurs, je crois que ça vient d'être dissous. Et Studio Bagel, c'était Canal+. Et ça a lancé plein de gros agents.
Studio
et plein
71
de gros...
pour TF1.
Exactement. Pareil, qui vient d'être mergé aussi. Donc c'est un peu la mort des networks maintenant.
Bah, et d'ailleurs, ça a été l'énorme chose. C'est-à-dire que les networks, ils ont eu beaucoup de mal. Ils avaient un modèle qui était un peu donné, qui était juste... Bah, on parle pas trop, finalement, aux créateurs avec qui on bosse, mais juste on s'occupe de leur monétisation. YouTube nous verse l'argent, on te reverse l'argent et on prend un pourcentage. Et en fait, ces networks, ils ont eu, pour certains, pas beaucoup de flair, et ils ont pas vu arriver un autre modèle qui, aujourd'hui, prédomine largement sur dans le marché, c'est les agences d'influence. On citait Serré de Production, je crois que Marcelo, tu citais Follow.
C'est quoi les grosses agences aujourd'hui qui composent le marché en France ?
Bah, Follow. Hein.
Follow, excusez-moi.
Ah, oh, Shona.
Non, ouais, mais Shona, c'est pas comparable.
Shona, on le met sur la
même
réalité.
Ça reste une agence d'influenceurs qui est hyper importante.
Le problème, c'est que le fonctionnement de Shona Event est complètement différent de toutes les autres agences, je pense. C'est que quand on est chez Shona, si je me rappelle bien de ce que j'ai déjà entendu, mais je pense pas me tromper, c'est qu'ils ont des forfaits, ils savent pas forcément les collabs qu'ils vont faire.
C'est un salaire à la fin du mois.
Voilà, c'est un salaire, donc c'est un global. Alors que les agences d'influence, elles te proposent des contrats, tu les acceptes ou tu les acceptes pas. C'est un montant donné pour chaque contrat, ça dépend.
T'as pas la même paye à la fin du mois que.
C'est beaucoup plus personnalisé. Donc, je sais pas si...
En gros, chez Shona Event, il y a un minimum garanti. T'es payé X par mois, mais tu sais que tu dois faire 40
partenariats, en fait.
Alors que
mais limite, je crois qu'ils peuvent pas trop choisir. Ou alors,
oui, je pense. Je sais pas s'ils ont le droit de regard, je crois.
Ouais.
Et dans les autres grosses agences qu'on a, on a... Bon, Webedia qui reste une grosse agence.
Oui,
Smile, effectivement.
Smile.
Point d'org aussi, qui a
très bien. Et puis, on a des nouvelles, là, récemment... j'ai oublié tous les noms. Dans le j'allais sortir une liste,
mais
je suis sorti très fort.
J'allais dire une nouvelle, mais c'est pas trop...
Avec TikTok, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque... Je viens d'y penser, mais je crois qu'en fait, c'est brillant ce que je veux dire. À chaque nouveau réseau, il y a une nouvelle génération d'agences.
Bah,
en fait, YouTube avec les MCN, Instagram, ça a été l'avènement des agences type Follow, etc., là où les autres. Et TikTok, on voit des nouvelles agences émerger qui sont que sur TikTok.
Alors, c'est les house.
C'est les house et il y a aussi des agences qui sont spécialisées sur du TikTok. En fait, je vois qu'il y a un nouveau réseau, il y a aussi une nouvelle génération d'agences qui accompagne.
Je vais faire briller un tout petit peu moins.
Ah merde, j'en étais sûr.
C'est-à-dire que c'est des agences qui sont spécialisées, je te rejoins, mais le modèle change,
non, t'as raison,
plus trop.
T'as raison.
Et du coup, c'est quoi le modèle actuel, par exemple, pour une agence comme Serette ou même comme Follow, c'est quoi leur modèle de fonctionnement aujourd'hui ?
Bah, je pense qu'ils ne fonctionnent pas pareil, déjà.
Ah bon ?
Bah... Je sais pas exactement, c'est un peu plus complexe que ça.
Oh là là, elle veut juste pas lâcher des doses un peu perso.
Je veux dire, moi, avec mon agent, je reçois des mails de marques. J'ai accès à mes mails, j'ai de la transparence sur mes mails. Je sais que toutes les agences ne l'ont pas parce que moi, en fait, mon agent qui me gère répond à mes mails, mais je suis dans les boucles de mails et c'est lui qui va négocier et ça va passer directement par moi. Donc, il s'occupe de faire le commercial avec la marque qui vient me voir. Et ensuite, ça passe par moi, donc c'est juste mon agent qui est entre nous deux. Sauf quand ils ont des contrats un peu plus globales, ils font des campagnes avec des marques où ils mettent plusieurs créateurs sur la même campagne parce que c'est eux qui la développent. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas trop dans les boucles de mail parce qu'il y a plusieurs créateurs dedans. Mais globalement, j'ai quand même pas mal de visibilité. Je sais que chez Follow, c'est juste un peu différent. C'est qu'ils ont des agents Et il y a d'autres gens qui sont des commerciaux et c'est eux qui négocient les contrats. Et ensuite, ça passe par l'agent qui passe par le créateur. Enfin, du coup, donc, ça du dépend coup, des modèles, quoi.
Du coup, ils n'ont pas accès à leur boîte mail, forcément.
Follow, je ne sais pas, mais d'accord. Je sais qu'il y a des... Il y a des agences où ils n'ont pas accès à leur boîte mail, ou en tout cas, il n'y a pas autant de transparence en tout cas, que moi, je peux avoir, par exemple, chez Soret. Et je sais qu'il y en a certains même qui gèrent les comptes Instagram. Enfin, il y a certaines agences qui vont loin. Je n'ai pas de nom, je ne sais pas qui. Ouais. Mais il y a des agences qui gèrent même les DM Instagram et tout. Donc
les modèles économiques, en revanche, sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire,
globalement,
c'est quoi le pourcentage global aujourd'hui ? À l'époque, on disait les networks. C'était 70-30, 50-50. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans les mêmes, sans rentrer dans le détail d'un contrat en particulier, mais est-ce qu'on est dans les mêmes pourcentages ou est-ce qu'on est dans des pourcentages moindres ? C'est-à-dire combien en moyenne va prendre une agence sur un contrat ?
Ça dépend de la taille de l'agence. Je pense que si c'est un agent indépendant, ça peut être des plus petits pourcentages parce qu'il est tout seul. Ou si c'est une grosse agence, ça peut être des plus gros pourcentages parce que forcément, il y a plus de staff, il y a plus de monde derrière. Donc ça peut être du 20-30%.
Globalement, plus, hein, mais aujourd'hui, quand on rentre en agence... Généralement, c'est 30%.
Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est un peu normé, ça.
Ouais, c'est maintenant, 30%, c'est un peu. Au-dessus, c'est un au-dessus, peu, tu vas te faire douiller. Ouais.
Okay. C'est en mode gère tes trucs quand même parce que tu vas y arriver.
Webedia, c'est 50%, sachez-le.
Ah, d'accord. 50%, okay.
Ça a peut-être changé depuis, oui.
Je suis pas sûr.
Non, généralement, après, ça dépend. Si c'est vraiment une très, très grosse et qu'ils veulent vraiment l'avoir et qu'elle leur dit, bah, moi, c'est 15 ou c'est rien. Bah, je pense qu'ils la prennent quand même parce qu'elle rapporte des sommes beaucoup plus grosses. Après, généralement, c'est 30%, 20%. Et après, ça dépend aussi de l'exclusivité parce qu'il y a des agences qui veulent l'exclusivité pour les partenariats et d'autres non. Généralement, aujourd'hui, c'est quasiment que exclusif. Ouais.
Et pour vous, quand on est créateur de contenu, est-ce qu'on peut évoluer sans agent, justement ? Parce qu'il y a plein d'agences différentes avec plein de positionnements différents et certains vont être indépendants aussi ou même ne pas en avoir. Je prends l'exemple de Michou, là, par exemple, qui vient de quitter Webedia.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Alors, pour avoir... Je crois qu'il garde son propre agent qui était déjà chez Webedia, mais est-ce qu'on peut être sans agent et se dire, bah, Léna Situation, par exemple, n'a pas officiellement d'agent, c'est elle qui traite ses mails, c'est elle qui gère avec les marques.
Je crois qu'elle a une assistante.
Ouais, elle a embauché quelqu'un, mais qui n'a pas le rôle d'agent, parce que c'est elle qui l'embauche, finalement.
Donc, est-ce que pour vous, c'est bien?
Moi, je pense qu'on peut le faire. Après, ça dépend de la taille de la communauté. Si on est à 100%, par exemple, si on est à 100% influenceur, peut-être qu'on peut le faire. Mais si on travaille à côté, par exemple, c'était pas évident. Et du coup, d'être en agence, bah, ça fait qu'on a une épaule un peu où on peut ne pas gérer nos mails. Moi, je pense que c'est aussi avoir... je sais plus ce que je voulais dire.
C'est pas grave.
C'est aussi avoir
est-ce que...
bah, des contacts, voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est avoir une agence, c'est avoir des contacts, c'est avoir. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de tout gérer seul. Donc, quand on est influenceur à 100%, je pense que c'est vraiment. On peut le faire. Mais.
Mais voilà. C'est possible, mais.
C'est compliqué. À un certain niveau, c'est
compliqué. À un certain niveau, c'est compliqué. Ça dépend des capacités de chacun aussi.
Hein. Ouais, moi, je me suis toujours demandé comment elle faisait, Léna, pour.
Ouais, moi aussi.
Enfin, là, quand même, là, j'ai vu hier, je crois, elle va arriver à 4 millions de followers. Elle a un taux d'engagement qui est genre ultra impressionnant. Elle marche avec des marques qui sont genre luxueuses, hyper reconnues dans le milieu et tout ça.
Ouais,
il y a encore les chiffres qu'elle a produits pour la Fashion Week de New York qui sont genre faramineux. Comment elle arrive genre à faire ça toute seule ? Parce que il y a beaucoup trop de taf pour une seule personne, même si elle a une assistante, je suis d'accord que bon...
Elle est quand même un petit peu accompagnée, je pense. Je crois qu'elle est avec pas mal d'agences, en fait, même si elle n'est pas en exclu, elle bosse avec quand même pas mal d'agences. Mais, mais je suis d'accord. Moi, au-delà de ça, le rôle d'agent, et d'ailleurs, je me tourne aussi vers vous, est-ce qu'il y a un rôle aussi un petit peu, j'allais dire, au-delà du commercial, un rôle un peu affectif, d'une personne à qui on peut parler de problèmes, qui nous comprend, parce qu'il nous connaît très bien, qui connaît notre communauté, comment on peut réagir, etc., et qui a l'habitude de se mieux. Est-ce qu'il y a aussi cette oreille affective qui est importante ?
Bah, moi, je pense que dans tous les cas, il faut bien s'entendre avec son agence si on veut que ça se passe bien dans le futur, parce qu'on parle quand même beaucoup avec eux. C'est aussi un autre souci quand on est indépendant, c'est qu'on est vraiment tout seul, et c'est quand même un métier où on est beaucoup tout seul. Donc au moins, avoir un agent... T'as quelqu'un avec qui tu communiques toute la journée et si tu as envie. Après, je pense qu'il ne faut pas en abuser non plus, que ça reste quand même un travail. Enfin, je pense qu'être agent d'influenceur, ça peut être très compliqué parce que je pense qu'il y a certains créateurs qui prennent un peu ça comme le rôle de d'amis, famille, etc. Et qui parfois en abusent. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a quand même un côté où on peut parler de nos projets, on peut s'exprimer librement sur nos envies, comment on a envie d'évoluer sur la plateforme. On a quelqu'un qui connaît vraiment bien aussi notre métier. Donc, bah, c'est toujours bien d'avoir une oreille attentive à côté, surtout quand on, si on a un cercle d'amis qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui...
Et vous ne pensez pas, justement, que dans ce que tu dis, une bonne solution, c'est de travailler avec sa famille? Il y a plusieurs exemples de gens...
Ouais, qui prennent leur maman...
Exactement, leur père, leur mère, leur frère, leur soeur. C'est une bonne chose pour vous? Alors, sans critiquer, enfin, sans oui. critiquer le... Mais est-ce que pour vous, c'est une bonne solution que d'avoir sa famille en tant qu'agent?
Non, bah, dans chaque métier, que ça soit... je sais pas, enfin, j'ai pas d'exemple... à proprement. Mais dans chaque métier, on dit tout le temps ne pas mélanger le perso et le pro. L'influence, c'est aujourd'hui un vrai métier. Je pense que mélanger le pro et le perso, c'est, enfin, pour moi, c'est trop compliqué. On se perd dans des trucs vraiment perso, dans des liens affectifs, dans ouais. tout ça. Et il y a quand même de l'argent en jeu par les contrats. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça peut mener à des disputes familiales,
si,
voire amicales.
Si ma mère, c'était mon agent, mais je pète un câble. Hein.
Bisous, maman.
Bisous, maman, je t'aime. Mais non, mais j'ai des copines qui sont influenceuses et qui bossent avec leur maman. Et alors, elles ont peut-être une relation que j'ai pas, ou je sais pas, elles sont, ça fait un peu une relation amicale, j'ai l'impression. Enfin, moi, mon agent, je m'entends bien avec comme un ami, quoi. Enfin, c'est pas du tout ma mère ou mon père, quoi. Puis déjà... Je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas comment ils font, les gens qui ont leurs parents en tant que... Ou leurs parents ou cousins, peu importe. Mais genre, moi, ma mère, elle y connaît rien à ce monde-là. Ça veut dire qu'il faut tout leur apprendre. À ce moment-là, si je dois tout apprendre à ma mère ou à mon père, autant que je le fasse moi directement, en fait.
Bah, c'est ça, en général. J'imagine ce qui est un des problèmes, c'est que... nous, on a vu déjà, par notre expérience avec David, parfois, quand les agents, c'est les frères ou les sœurs, etc., en fait, ça dépend. Est-ce que la personne déjà est compétente pour faire ce métier? Parce que c'est pas les métiers qui sont donnés à tout le monde.
Ouais.
Par exemple, on n'est pas. Enfin, aujourd'hui, il y a par exemple des joueurs de foot comme Mbappé qui sont accompagnés de manière très proche par leurs parents, sa mère, son père. Bon bah, coup de chance, ils sont très forts. Mais en fait, on n'a pas tous des parents qui sont très forts pour gérer ça, etc. Donc, ça dépend aussi vraiment de la qualité.
Oui, puis ça dépend des gens. Moi, je suis un peu de la vie de tout le monde autour de cette table, de dire que je pourrais pas travailler avec mes parents et que je préfère dissocier le familial du pro. Mais je comprends totalement. Enfin, il y a plein d'entreprises, même en dehors de l'influence, qui marchent super bien en famille.
Ouais.
Je pense que si tu t'entends super bien avec ta famille, que tu sens que ça peut marcher et que tu préfères garder ça en familial, en même temps, généralement, c'est ta famille et tu sais qu'ils te trahiront pas, même si on sait qu'il y a des débats.
Il y a la confiance.
Il y a la confiance quand même que t'as pas forcément.
Mais du coup, du côté des créateurs de contenu, alors comment est-ce qu'on fait sa sélection aujourd'hui? Demain, les créateurs de contenu qui se forment, on va dire, qui commencent à performer sur les différentes plateformes, ou même ceux qui veulent changer d'agence et qui ne sont pas aujourd'hui heureux avec leurs agences en cours, comment on recherche? Comment est-ce qu'on effectue ces recherches? Comment on trouve, parce qu'effectivement, comment on trouve un agent pour être accompagné?
Moi, je dirais par rapport déjà à, comment ça s'appelle, au feeling, à la philosophie de l'agence qu'on voit à travers les réseaux sociaux, à travers tout ça. Et aussi, je pense aux contrats et aux créateurs qu'ils ont déjà chez eux. Parce que je pense que, par exemple, typiquement, Follow, si on regarde les créateurs de Follow, c'est à peu près la même bande de potes.
Lifestyle. C'est du bouche à oreille.
C'est assez mode, non, les créateurs?
Oui, oui. Et ils sont tous soit colocs, soit meilleurs potes, soit machin, soit truc. Genre, ils se connaissent tous. Du coup, perso, si j'étais un créateur qui cherchait une agence, j'irais pas forcément chez eux, parce que du coup, tu rentres dans un monde où ils sont déjà tous hyper proches. Voilà, t'es un peu laissé pour compte. Et je pense qu'il y a d'autres agences, pour le coup, où c'est plus individuel et que ça plaît à des créateurs qui ont besoin de cette individualité.
Après, dans tous les cas, les agences démarchent énormément.
Ouais,
donc
c'est ce que j'allais dire.
Vous avez démarché beaucoup?
Ouais, moi, hier, j'étais à un événement d'influenceurs et j'étais en tant qu'influenceuse et j'étais avec ma copine qui est soi-disant mon agent, mais c'est en fait devenu ma copine aussi. Et on s'est fait démarcher dans la rue. En sortant de l'événement, on nous a dit « Excusez-moi, vous êtes influenceuse ?» puisqu'on avait plein de sacs de l'événement. On a dit « Oui. »« Ah bah nous, on est une agence d'influenceurs, machin, on fait ça. » Et du coup, je monte ma copine en disant « Bah c'est déjà mon agent. »« Ah ok, bon bah bonne journée.
» Et du coup, ton agent, elle fait partie d'une agence ou c'est une indépendante qui gère que toi?
Ouais, non, en fait, moi je suis dans une agence qui s'appelle Babylon Agency. Donc c'est pas une aussi grosse agence que Serette, mais on est une agence très TikTok, donc on a uniquement des profils TikTok, mais donc Instagram, on travaille avec les deux, mais on recrute que par rapport à TikTok de base. Et mon agent, du coup, elle fait partie de l'agence, mais en fait, je dis mon agent, mais en fait, on s'occupe, nous, on a une manière de fonctionner qui est différente des autres agences. C'est-à-dire que c'est des chefs de projet, entre guillemets, qui s'occupent chacun de leurs clients. C'est-à-dire que si on a une campagne avec, Lacoste, eh ben, c'est telle personne qui a Lacoste et du coup qui va gérer tel D'accord. et tel influenceur. On n'a pas un influenceur, on n'a pas un agent en fait. Dédié. On a plusieurs. Voilà. Et je sais qu'il y en a dans l'agence qui ont demandé à avoir qu'un seul agent. Parce que des fois, ils peuvent se trouver un peu perdus de travailler avec tout le monde. Mais c'est nous, quelque chose qu'on a décidé de faire et qui marche très bien pour l'instant.
Et Babylone, je dis une bêtise, mais c'est Thierry Gradoni.
Thierry Gradoni, ouais.
Si on devait terminer, et je réfléchis sur la question sur laquelle on pourrait terminer et se dire, apporter une information aux créateurs qui nous écoutent, ou même aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez une anecdote à raconter, positive, qui vous est arrivée avec votre agent ou votre ami chef de projet qui n'est pas votre agent, et qui vous a permis d'avancer peut-être en tant que créateur ou créatrice de contenu, vous êtes dit, ah là, heureusement que j'avais un agent quand même, parce que... Ou inversement, c'est la cata totale et c'est des gens avec qui on fait un travail très droit et c'est tout.
Bah non, moi j'ai eu pas mal d'agents parce que ça fait très longtemps que je suis sereine, ça doit faire 5 ou 6 ans. Mais j'ai pas d'anecdote particulière. Je me sais que je me suis toujours très bien entendue avec mes agents. Enfin, j'ai toujours fait en sorte, en tout cas, de bien m'entendre avec eux dès le départ et d'installer une relation un petit peu amicale sans être amicale. Juste le bon compromis de pouvoir raconter des choses, mais que ça reste quand même pro. Et après, on se revoit dans d'autres contextes, mais voilà. Mais j'ai pas d'anecdote particulière où je me suis dit, là, heureusement que j'avais mon agent, mais ça m'est déjà arrivé. Enfin, moi, c'est une anecdote qui me fait plutôt rire, que je me fasse démarcher par une... Je ne citerai pas de nom, mais je me suis déjà fait démarcher par des gens d'une agence devant des gens de chez Sorette qui étaient vraiment... Tous les agents étaient mélangés et ils venaient genre à une table pour aller démarcher des gens devant les agents. La et classe. J'étais là, le toupet. Et je suis repartie avec une carte de l'agence en question.
T'as quand même
pris la carte. C'était très gênant,
coup,
en fait.
J'ai signé chez eux.
Non. Non, mais c'était hyper gênant. Mais du coup, on me dit, on va peut-être des trucs qui vont... C'est un peu discret, tu vois, c'est flippant. Mais voilà. Je suis quand même choquée qu'on me donne une carte devant mon agent. Et...
Donc c'est une jungle, quoi.
Oui, c'est une jungle.
Vraiment, signer les meilleurs créateurs.
Voilà, exactement. Ouais.
Moi, je dirais pareil, j'ai pas d'anecdote en particulier, mais c'est vrai que moi, la relation que j'ai avec Thierry, par exemple, qui est mon agent depuis toujours, donc là, des fois, il deal un peu moins quelques collabs et c'est d'autres gens de l'agence qui vont le faire. Mais moi, c'est peut-être un peu malsain, mais j'ai l'impression de le voir un peu comme mon papa de l'influence. Genre, je me cache toujours un peu derrière lui. Genre, si j'ai un problème, je lui envoie, il le règle en 2 secondes. Et des trucs que toute seule, je sais pas si j'aurais les épaules pour le faire moi-même. Et du coup, ouais, je vais tendance à un peu me cacher derrière Thierry. Et en fait, j'ai l'impression qu'il nous protège grave. La preuve, l'autre jour, quand il t'a appelé pour clairement te demander si je pouvais prendre un jour de congé pour aller avec eux sur une journée de tournage et tout, je n'étais à peine au courant, quoi. Donc c'est un peu, voilà, des fois c'est peut-être un peu trop intrusif, je sais pas, mais moi ça me rassure vraiment.
Et je comprends, et puis il y a plein d'autres trucs que vous avez à gérer. C'est-à-dire que vous, aussi, le métier, c'est de créer du contenu.
Ouais.
Il y a plein d'à côté qui sont prenants, des contrats, de l'administratif. De pouvoir se focaliser juste sur la création de contenu, ça doit être...
Donc, moi, j'ai goûté l'agence d'influence, je ne pourrais pas retourner en attendant.
Et juste une dernière question. Vu qu'on a parlé de beaucoup d'évolution, on a parlé avant des blogueurs, ensuite des MCN, maintenant des agences. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui va encore évoluer dans l'avenir et qu'on va encore voir d'autres typologies d'agents et d'agences? Ou vous pensez que là, on est à une mouture, on va dire, définitive de ce que c'est le métier et ça ne changera plus?
Moi, je pense que ça va évoluer. Parce que, il y a toujours des nouveaux réseaux... Des nouvelles plateformes, des nouveaux contenus aussi, je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, les mecs, ils sont complètement fous. Ils vont créer genre des agences en fonction des trends, en fonction des musiques, en fonction du lifestyle.
Moi, je pense pas.
Moi, je pense qu'ils vont vraiment l'exporter et l'évoluer le plus possible pour qu'il y en ait plus et que vraiment chacun ait sa spécificité. Voilà.
Spécificité. Efficacité.
On l'a.
Mais je pense vraiment que ça va évoluer. Et c'est très bien aussi que ça évolue.
Ouais. Et puis il y a des trucs. Maintenant, il y a aussi des influenceurs, des créateurs qui créent leur agence aussi. Enfin, on a vu avec des collectifs. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi, pardon, l'avenir? Est-ce que c'est pas des créateurs de contenu qui créent. Comme ça s'appelait le truc d'Amixem, j'ai oublié. Mais.
La Redbox.
La Redbox, par exemple.
Ou Maison Grise avec.
Ou Squeezie qui a créé son agence. Est-ce que maintenant, on n'a pas envie d'être représenté par quelqu'un qui nous connaît très bien, qui connaît notre quotidien parce qu'il a été influenceur?
Oui, peut-être.
Ça peut être une piste, voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous.
Merci.